Voilà, bonsoir à tous et à chacun. Nous allons introduire notre sujet par quelques lectures. Dans le Nouveau Testament, la première dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, où nous lisons ce qui est la conclusion de la charte du royaume des cieux. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15 et jusqu'au verset 23, où Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. » Vous qui commettez l'iniquité. Puis nous allons dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. 2 Timothée, au chapitre 3. Nous lisons les 5 premiers versets. 2 Timothée 3, les 5 premiers versets. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et puis enfin, dans la première lettre de l'apôtre Jean, première lettre de Jean, au chapitre 3, donc à la fin du Nouveau Testament, première lettre de Jean, chapitre 3, les versets 9 et 10. 1 Jean 3, versets 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Une vie chrétienne authentique. J'ai relevé dans une de mes lectures, sous la plume de Ralph Challis, cette remarque: n'ayons pas peur d'être vrai. Recherchons l'authentique. Le Christ lui-même nous a enseigné cette leçon difficile. La vérité ne se trouve pas chez la foule. Elle est le privilège de cette minorité qui rejette les fausses valeurs et qui s'attache au réel, à l'impérissable. Et il ajoute qu'aucune autre vie ne vaut la peine d'être vécue. Cela est vrai. Recherchons l'authentique. Nous pourrions commencer par une devinette. Quelle est la différence entre les radis et les carottes? Grande question épineuse pour un samedi soir, je le comprends. Il y a différentes manières de répondre, mais en voici une. Les carottes sont nettement plus honnêtes que les radis. Tout simplement parce que lorsque vous épluchez une carotte, elle est généralement de même couleur à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui n'est généralement pas le cas du radis. Le radis est hypocrite, la carotte est honnête. C'est une parabole. Comment distinguer entre christianisme vrai, authentique, et christianisme faux, douteux? C'est une question d'autant plus importante que nous vivons à une époque où l'on attache beaucoup d'importance aux apparences. Tout est fait aujourd'hui pour mettre en exergue, en évidence, les apparences. Nous sommes très sensibles aux apparences. Et même lorsque nous avons une expérience, parfois même très longue, de relation avec Christ, nous ne sommes pas à l'abri de la séduction des apparences. J'en veux pour preuve un homme de Dieu dans les Écritures qui était riche, d'une longue expérience en des temps très difficiles, le prophète et juge Samuel, qui avait rendu un excellent témoignage tout au long de sa vie, et qui, lorsqu'il fut appelé par Dieu à se rendre à Bethléem pour oindre le successeur potentiel du roi Saül, vous le savez, tomba dans le panneau. Malgré son expérience, il fut sensible à l'apparence. Quand il vit l'aîné de cette grande famille, l'aîné des garçons, se présenter, Éliab, qui était quelqu'un de bien, de grand, beau, immédiatement, au fond de son cœur, il se dit, c'est lui. Et Dieu dut lui dire, vous connaissez ce texte d'1 Samuel 16, 6 et 7, ne regarde pas à l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Et nous sommes nous-mêmes terriblement impressionnables très marqué par certaines équations fausses. Par exemple, celle qui consiste à penser que si quelqu'un est beau, cela signifie qu'il est bien. Faites l'expérience. Dans une pièce où sont rassemblés des petits-enfants qui sont en train de jouer les uns avec les autres. Et vous verrez se focaliser tous les regards sur le modèle en beauté de ces enfants. On va se focaliser très rapidement sur lui. Et c'est une des injustices de l'existence, déjà chez l'enfant tout petit, de se focaliser sur celui qui est beau, même si la beauté a bien des aspects subjectifs, au détriment de celui qui va passer inaperçu, ou au contraire, qui va créer une certaine répulsion par sa laideur physique. Et nous sommes ici terriblement marqués par toute une mentalité qui nous vient du monde grec et qui a envahi toute notre Europe, parce que dans la philosophie grecque, ou dans certains aspects de cette philosophie, être beau, c'était être bon, c'était être bien. Et tout tournait autour de ces questions d'esthétique. Alors Dieu dit non. Dieu dit non, Dieu va dire non à Samuel, il va choisir le petit dernier d'ailleurs, celui auquel personne ne pensait, qui n'était pas laid pour autant. Ça ne veut pas dire que Dieu accorderait un privilège particulier à la laideur, puisque il nous est dit dans les Écritures que David était beau. Mais cela veut dire que les critères d'évaluation de Dieu sont ailleurs que dans la beauté et la laideur telles que l'homme les conçoit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Vous savez que beaucoup d'hommes ont manqué un des plus grands rendez-vous de Dieu avec l'histoire, simplement à cause de leur regard superficiel. Je pense à ce texte d'Ésaïe 53, dans les deux premiers versets, ce qu'on appelle le cinquième évangile, mais qui commence par ces mots: « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Vous voyez, l'apparence était trompeuse. Et beaucoup d'hommes se faisaient du Messie une image d'esthétique complètement fausse. Et cette image qu'ils avaient dans la tête, n'est-ce pas, qu'ils voulaient à tout prix projeter dans les gens qui les entouraient, eh bien, ne collait pas avec la personne de Jésus-Christ. Et ainsi, beaucoup déjà là sont passés à côté de l'essentiel. Et puis nous avons ce texte très important de Matthieu 7 que nous lisions tout à l'heure et qui commençait au verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Un commentateur écrit ceci: alors que les chiens et les porcs sont relativement faciles à reconnaître du fait de leur attirance pour la saleté, les loups, eux, se glissent dans le troupeau sous l'apparence d'une brebis. Les imprudents les confondent avec le reste du troupeau et les accueillent. Souvent, leur vraie personnalité n'apparaît que lorsque le mal est déjà fait. Un faux docteur ne se fait pas de publicité comme diseur de mensonges. Au contraire, il se vante d'enseigner la vérité. D'autre part, il dissimule ses sombres intentions sous un vêtement de christianisme. Nous commençons à entrer dans le vif de notre sujet. Il sait que les chrétiens forment un peuple crédule, naïf. Et il compte ne pas être démasqué dans son habit d'innocence. Parfois, il y ajoute même le langage de l'orthodoxie historique, j'y reviendrai tout à l'heure, en lui donnant un sens différent. D'autres fois, il se cachera sous la couverture de titres académiques impressionnants. Gardez-vous, dit Jésus. Être sur nos gardes, c'est demander à Dieu son discernement. Utiliser nos facultés critiques, ne jamais relâcher notre vigilance. L'apparence extérieure d'une personne, son charme, sa formation, ses titres, ses distinctions ecclésiastiques ne doit pas éblouir les disciples du Christ. Derrière le docteur en théologie, le professeur ou l'évêque, ils doivent apprendre à voir s'il y a un agneau ou un loup. Et après cette mise en garde au sujet des faux prophètes, Jésus va plus loin, vous le remarquez au verset 21, lorsqu'il souligne « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est-à-dire que il ne suffit pas d'avoir une confession de foi orthodoxe. Il ne s'agit pas d'avoir simplement des déclarations orthodoxes. Je pense à cet homme qui entre dans une maison, qui monte dans une cage d'escalier, ça sent la fumée, et subitement, il voit une espèce de boule de feu tournoyer partout autour de lui, et de cette espèce de boule de feu sort une voix rauque qui dit « Jaco est content, Jaco est content, Jaco est content » n'est-ce pas ? C'était un perroquet qui était en train de brûler vif. Et pourtant, au même moment, il continuait à donner le même message, un message qui était totalement en désaccord avec sa situation. Et c'était ce qu'il avait appris. Jaco est content, il était en train de mourir. Alors on peut avoir une déclaration de foi très très orthodoxe, des proclamations très vertueuses. Nous pouvons aussi avoir nos proclamations « Jaco est content ». Et pourtant, Jésus pourrait bien nous dire ouvertement « Je ne vous ai jamais connu ». Je ne suis jamais entré en relation intime, personnelle avec vous. Je n'ai jamais mangé à votre table. Je n'ai jamais partagé le sel, comme disent les Écritures, avec vous. Je ne vous connais pas. Oui, le Seigneur Jésus, lui-même. Et Jésus va même plus loin, puisque non seulement il souligne que l'orthodoxie doctrinale est insuffisante comme preuve d'authenticité, mais même certaines pratiques. Parce qu'il y a ceux qui non seulement disent « Seigneur, Seigneur », mais qui sont capables d'ajouter à cette déclaration de foi de la seigneurie de Christ, et ce n'est pas rien dans les Écritures, mais nous avons prophétisé. Et nous l'avons fait par ton nom, en nous réclamant de ta personne. Nous avons chassé des démons. C'est-à-dire que nous avons pris position et lutté contre la puissance des ténèbres. Nous nous sommes de cette manière placés dans ton camp. Ou encore, nous avons fait des miracles, beaucoup de miracles, par ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Et Jésus dira, mais vous ne me donnez pas là un signe d'authenticité. Ça ne fait pas de vous d'authentique croyant. Je ne vous ai jamais connu. Ce ne sont pas des critères suffisants. Et c'est vrai, nous le savons, l'ennemi fait des miracles. Et nous savons même que dans sa souveraineté, Dieu est capable de se servir de la puissance des ténèbres pour accomplir sa volonté. Dieu est totalement souverain. Dieu se sert des témoins de Jéhovah, Dieu se sert des Mormons, Dieu se sert des disciples de Moon, Dieu se sert des sectes les plus anti-Dieu pour amener des personnes à la connaissance de son fils Jésus-Christ. Je racontais ces derniers temps à quelqu'un que, en Union soviétique, dans le passé, lorsque ce pays était pleinement sous autorité marxiste, des milliers de personnes se sont converties à Jésus-Christ en étant obligées de lire les ouvrages qui démolissaient le christianisme et qui étaient une propagande au système athée. Et comment ces gens se convertissaient à Jésus-Christ? Tout simplement en découvrant les versets qui étaient utilisés par les propagandistes du marxisme pour démolir le christianisme. Ce n'était pas l'argumentation des athées qui les accrochait, c'était les versets de la parole de Dieu. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et il y a dans nos églises évangéliques, en France, des milliers de personnes qui se sont tournées vers Jésus-Christ en passant par des sectes. Est-ce que vous allez me dire que ça justifie les sectes? Ça ne justifie pas les sectes. Ça ne les rend pas bonnes au regard de Dieu. Nous y reviendrons un peu plus tard encore. Et nous pouvons d'ailleurs comprendre pourquoi finalement Jésus, de terminer ces grandes déclarations sur la constitution du royaume au verset 24, en disant « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique », ça commence à changer, hein, « les met en pratique » sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, en réalité, l'authenticité de notre christianisme repose sur la manière dont nous approchons les Écritures, sur notre mise en pratique des Écritures, beaucoup plus que sur notre connaissance simplement intellectuelle des Écritures, ou sur notre pratique de don. Mettre en pratique les Écritures. Nous aurions pu poursuivre sur toute cette question des apparences, mais j'aimerais que nous allions à partir de là vers la première épître de Jean pour nous pencher sur le fondement de l'authenticité. Quel est le fondement de l'authenticité de la vie chrétienne? Et au passage, simplement, je vous rappelle que nous avons lu dans 2 Timothée 3, ce verset 5 qui dit que dans les derniers jours, les hommes, notamment, auront l'apparence de la piété, mais qu'ils renieront ce qui en fait la force. Et j'aime cette transcription d'Alfred Kuhn qui traduit ainsi, certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force, ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie, aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Alors quelle est, à partir de la première épître de Jean qui va nous intéresser jusqu'à demain après-midi, quel est le fondement de l'authenticité? C'est ce qui va maintenant nous intéresser ce soir, à partir de ce petit préambule. Et pour cela, il nous faut considérer le contexte de la première épître de Jean. Première épître de Jean qui a donc été rédigée par l'apôtre, très âgé, vénérable vieillard, dont on sait qu'il avait une influence spirituelle certaine sur toute une partie de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle, autour d'Éphèse, où il s'était retiré. Et c'est donc à Éphèse que cette première lettre a été rédigée par l'apôtre Jean. Pourquoi a-t-il rédigé cette lettre? Quelles sont les circonstances ou certaines des circonstances qui l'ont conduit à sa rédaction? Des païens cultivés sont entrés dans l'église de Jésus-Christ vers la fin du premier siècle et y ont parfois apporté leurs idées philosophiques et religieuses. Et il faut savoir que, à la fin du premier siècle, et déjà à partir des années 60 à peu près, mais surtout à la fin du premier siècle, une nouvelle religion se répand dans tout le bassin méditerranéen. Et cette nouvelle religion englobe les systèmes païens existants, par exemple tout le système religieux gréco-romain, mais aussi le judaïsme. On a également déjà des émanations de systèmes orientaux. Et puis, bien entendu, le christianisme. Il y a là ce que l'on appelle un syncrétisme, une espèce de salade, de Macédoine, un mélange qui va se structurer de plus en plus, qui va s'étoffer et qui va devenir ce qu'on a appelé le gnosticisme. Et le gnosticisme est donc un immense courant qui a beaucoup pris d'ampleur à partir de la fin du premier siècle et qui a créé de réels problèmes aux croyants dans le courant des deuxième et troisième siècles. Et c'est entre autres à cause du développement de ce courant que l'apôtre Jean est conduit par le Seigneur à rédiger les trois épîtres, et en particulier cette première épître. Alors, quelles sont les idées maîtresses que véhicule ce gnosticisme encore en cours de formation? C'est intéressant, vous verrez, c'est assez important. Nous essayerons de voir certaines applications actuelles. Tout d'abord, il y a une question qu'on appelle d'ordre théologique, c'est-à-dire qui concerne la personne de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et en particulier un problème concernant Jésus-Christ. Dans ce gnosticisme qui est en train de se structurer, Jésus-Christ est diminué. Il est amoindri. Vous avez d'un côté d'ailleurs le Christ, une sorte d'esprit intermédiaire qui émane de la divinité, et qui est venu pour aider l'homme à monter vers la divinité par des rites secrets, des visions, du mysticisme, de l'ascétisme, et toutes sortes d'autres ismes qui courent encore aujourd'hui. Et ce Christ a cette particularité, c'est qu'il n'est pas venu en chair. C'est un pur esprit. Il n'est pas venu en chair, tout simplement parce que dans ce système, la chair, qui fait partie du monde de la matière, est mauvaise. Donc, il n'est pas possible que cet esprit émanant de Dieu puisse venir enveloppé dans un corps matériel. Il ne peut pas être venu en chair. Il avait peut-être une apparence humaine, mais ce qui est très important, c'est que dans ce système, on dissocie le Christ de Jésus. Jésus, c'est l'enfant qui a grandi, mais qui est issu d'une relation sexuelle tout à fait normale entre Marie et Joseph, qui étaient mariés. Il a grandi. Et puis, au moment de son baptême, le ciel s'est ouvert. Il y a effectivement une voix qui s'est exprimée. Et à ce moment-là, il y a eu une sorte de miracle. Le Christ est descendu sur ce Jésus-homme. Et donc, il y a eu pendant quelques années, pendant 3 ans à peu près, un rôle tout à fait particulier, une sorte d'adoption de ce Jésus par Dieu le Père pour faire toutes sortes de choses. Et puis, avant la croix, parce qu'il n'était pas question que ce Christ reste associé à Jésus qui allait mourir sur la croix. Vous vous rendez compte? Alors juste avant la croix, sans doute dans le jardin de Gethsémané, le Christ est reparti. Et en fait, c'est un Jésus tout humain qui est finalement mort sur la croix. Donc une sorte de divorce est installé entre la personne de Jésus, tout humain, tout pécheur, peut-être meilleur que les autres, mais enfin qui reste un homme, et puis cette espèce de Christ qui émane de la divinité. À Éphèse, à l'époque où Jean vivait sa vieillesse et témoignait, il avait un ennemi. Un ennemi tout particulier dans ce domaine qui s'appelait Sérinthe. Et Sérinthe était un petit peu le chef de ceux qui véhiculaient ces idées. On a appelé ça le sérinthisme. Et on raconte, on sait de sources sûres par un des pères de l'Église du IIe siècle qui s'appelait Polycarpe, qui vivait donc encore très près des événements de la fin du Ier siècle, qu'un jour, l'apôtre Jean a voulu aller prendre un bain dans les thermes d'Éphèse, et quand il entrait pour prendre son bain, il a vu Sérinthe, qui était en train de prendre son bain. Et il s'est enfui très rapidement en criant autour de lui, « Écoutez, surtout n'allez pas dans les bains, parce que Sérinthe y est, et comme il est l'ennemi de la vérité, les bains risquent de s'effondrer, n'est-ce pas ?» Il y avait vraiment un antagonisme extrêmement fort entre Sérinthe, qui proclamait des choses tellement dangereuses, n'est-ce pas, et l'apôtre Jean, qui présentait la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est devenu une sorte de mini-Christ à mettre au même rang que d'autres divinités. Et il faut lire la première épître de Jean à la lumière de ce que je viens de dire. Par exemple, dans 1 Jean 2, au verset 22 et 23. Regardez avec moi. 1 Jean 2, 22 à 23. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Ça, c'est la réponse la plus directe que l'apôtre Jean faisait à Sérinthe et à ses disciples. Vous n'avez pas le droit de dissocier la personne de Jésus de la personne de Christ. Jésus-Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Christ et Jésus, c'est la même personne. Hein, vous remarquez, celui-là est l'Antichrist qui dit ceci, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Et vous verrez, dans les trois épîtres de Jean, plusieurs déclarations très fortes. Par exemple, dans 2 Jean, où il n'y a qu'un chapitre, au verset 7 et suivant, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Vous remarquez toujours le même problème. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Verset 9, quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et vous verrez dans bien des textes du Nouveau Testament cette affirmation extrêmement forte. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Christ venu en chair au milieu des hommes. Ce n'étaient pas des affirmations gratuites, tout simplement parce que très tôt, dans le développement de l'Église primitive, des faux docteurs ont essayé de troubler l'Église en diminuant d'une manière toute particulière la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors vous seriez tenté de vous dire, mais en quoi est-ce que ça nous intéresse un samedi soir après une semaine bien fatigante à Olivet? Mais c'est beaucoup plus important que vous ne le pensez. J'ai sous les yeux l'extrait d'un journal d'une paroisse protestante d'une ville de Suisse, petite ville, dans laquelle j'ai fait des conférences dans le passé. Ça date de ces toutes dernières années, et j'ai relevé dans le journal paroissial, donc de cette église réformée de Suisse, dans le Jura suisse, sous la plume de Madame la Pasteure, parce qu'il faut dire comme ça, n'est-ce pas, parce que c'est une dame, nous ne sommes pas d'accord avec cela, mais enfin c'est ainsi, hein, dans les églises réformées, et cette Madame la Pasteur, dont j'ai le nom sous les yeux, écrit ceci, écoutez, « Il en a été de même pour Jésus. Les évangélistes racontent que lors de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. À cet instant, le ciel s'est ouvert. Jésus a su, Dieu est mon Père et je suis son Fils. Le Saint-Esprit a uni Dieu à l'homme appelé Jésus de Nazareth, et il l'a fait fils de Dieu. » C'est-à-dire que près de 2000 ans après les événements de la fin du 1er siècle à Éphèse, en Asie mineure, vous avez, dans un petit village ou une petite ville de Suisse, une femme pasteur qui donne ce genre d'enseignement dans son église aujourd'hui. Et ça ne se fait pas qu'en Suisse, ça se fait en France aussi. Plus d'un pasteur, entre guillemets, pas forcément pasteur selon les Écritures, et c'est là le problème, va annoncer ce genre d'enseignement aux membres de sa paroisse. Et nous devons être vigilants. Je ne vais prendre qu'un autre exemple. Certains d'entre vous ont lu ce livre que j'ai sous les yeux qui s'intitule « Les dieux du Nouvel Âge ». C'est un livre remarquable, c'est pratiquement le premier livre qui est sorti en langue française au plan évangélique pour traiter du problème du Nouvel Âge. Excellent livre, qui a l'avantage d'être de plus écrit par quelqu'un qui a vécu le Nouvel Âge et qui a connu beaucoup de problèmes jusqu'à ce que finalement elle se tourne vers Jésus-Christ, Caril Matriciana. Eh bien, dans cet excellent livre, publié par une édition tout à fait évangélique, EBV, vous allez remarquer, en page 85, ceci, il s'agit du récit de la rencontre de Caril avec Jésus-Christ dans un entretien avec un homme de Dieu aux États-Unis. qui s'appelle Richard, de son prénom. Et dans l'entretien, voici un court extrait. Richard vit mon froncement de sourcils et sourit. Et donc il parle. La personnalité de Dieu n'est faite que de bonté, ce qui n'est pas vrai. C'est moi qui ajoute. Il ne peut s'unir à quoi que ce soit de mal. Ça, c'est juste. C'est parce que Jésus est une partie de Dieu et sans péché qu'il est le seul remède capable de te purifier de tes péchés. Voilà donc un excellent livre. Je pense qu'il a dû être en vente donc dans notre bonne librairie évangélique, que je vous recommande toujours, mais vous avez subitement un petit problème à quelque part, qui est un gros problème. Hein, quand on dit que Jésus est une partie de Dieu, est-ce que c'est exact? Ce n'est pas ce que la Bible dit. Jésus n'est pas une partie de Dieu. Jésus est Dieu. Et vous avez même des termes dans les Écritures et dans le Nouveau Testament qui sont d'une force extraordinaire. Vous avez un mot unique dans tout le vocabulaire grec du Nouveau Testament pour dire que Jésus est parfaitement Dieu. Unique dans le Nouveau Testament. À côté des innombrables passages qui affirment de diverses autres manières que Jésus est bien Dieu dans sa totalité. Alors nous aurions pu continuer ainsi, mais je vous livre cette petite réflexion d'un théologien qui écrit ceci. À travers toute l'histoire de l'Église, Jésus-Christ a connu le cycle de crucifixion répété. Il a été frappé, meurtri, jeté dans la prison d'innombrables systèmes et philosophies. Considéré comme une idée, il a été littéralement enfoui dans les tombes de l'imagination, recouvert de lourdes dalles, afin de ne plus jamais ressusciter et venir nous troubler. Mais le miracle, c'est que Jésus-Christ est toujours ressorti de ces tombeaux successifs où la pensée de l'homme enfermée. Alors ça, c'était le premier problème auquel l'Église de Jésus-Christ avait à faire face à la fin du premier siècle. Il y en avait un deuxième. Le deuxième problème concernait la question du salut. Comment peut-on être sauvé? Alors ces faux docteurs qui s'étaient infiltrés dans l'Église, avant de la quitter et de répandre leur fausse doctrine, disaient que le salut ce n'est pas la libération du péché. Le salut n'a rien à voir avec le péché. Le salut, c'est la libération de l'emprise de la matière. La matière est mauvaise, il faut en être absolument libéré. L'âme est enfermée dans cette prison de la matière. L'âme est comme une étincelle divine qui veut rejoindre la divinité là-haut. Et il faut absolument qu'elle soit dégagée de la prison de la matière, du corps. Alors on peut être sauvé. On peut être sauvé par la connaissance. Et le mot gnosticisme vient du mot gnose, qui est une francisation en quelque sorte d'un terme grec, qui veut dire connaissance. Le salut par la connaissance, par des efforts pour gravir des échelons, pour être déifié, fusionné avec Dieu. Et c'est un salut spécial, il n'est pas pour tous. Il n'est que pour ceux qui sont des illuminés, qui un jour connaissent la lumière. Alors on va parler demain matin et demain après-midi de la vie dans la lumière. Parce que l'apôtre Jean va dire, écoutez, les faux docteurs vous parlent de vie dans la lumière. Ils vous parlent d'illumination. Mais moi je vais vous dire de la part de Dieu ce qu'est la vraie vie dans la lumière et vous verrez que c'est quelque chose de tout à fait différent. Salut pour les illuminés, pour les initiés. Il y avait les spirituels et les spirituels, cette élite, avait tendance à mépriser ceux qui végétaient sur la terre, qui ne réussiraient jamais à se sortir de la matière. Ils manquaient d'amour vis-à-vis d'eux, d'où la raison de la place de l'amour dans la première épître de Jean. Et puis, le résultat, et c'est le troisième problème dans l'Église de l'époque, de la fin du premier siècle, c'est que ça avait tout cela des répercussions sur la vie morale et sociale. Si vous n'avez pas une vision juste de Dieu, de la personne de Jésus-Christ, si vous n'avez pas une vision juste de ce qu'est le salut, vous allez avoir des répercussions dans le domaine de la vie morale et sociale. Alors les faux docteurs disaient, mais les spirituels, ceux qui réussissent à grimper peu à peu par leurs efforts mystiques, par leurs connaissances secrètes, etc., n'est-ce pas ? Ceux qui réussissent à grimper vers la divinité, eh bien, ils sont inaccessibles au péché. Ils ne peuvent pas pécher. Ou encore, certains autres disaient, mais l'esprit de l'homme est inviolable. Il ne peut être contaminé par les actes. Le péché n'a pas d'incidence sur notre communion avec Dieu. Vous pouvez pécher. Ça ne va pas jouer sur votre communion avec Dieu. Vous pouvez vous livrer à la débauche, vous pouvez vivre une vie dépravée tout en étant spirituel. La conduite n'a aucune importance. Vous pouvez être juste indépendamment de votre comportement. Ah, mes amis, ça c'est un langage qui, sous d'autres termes, est fortement utilisé aujourd'hui. On peut être spirituel et pourtant se conduire parfois de manière tellement étrange. Alors, je ne vais pas continuer à développer tout cela parce que ce serait trop fastidieux, mais ce que je veux souligner, c'est que quelques membres des églises d'Asie mineure, et je dis membres avec un tout petit M, ont adhéré à ces nouvelles doctrines. Ils ont quitté l'église, 1 Jean 2,19, hein, ceci est dit de manière très claire, ils sont sortis du milieu de nous. C'est intéressant, ça nous concerne. Ils sont sortis du milieu de nous, mais l'apôtre Jean ajoute, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. S'ils avaient été des vrais disciples de Jésus-Christ, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés précisément, c'est là la preuve qu'ils n'étaient pas des nôtres déjà au départ. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc ils ont quitté l'Église et ils répandent ces erreurs, parfois très subtiles, à travers le monde de l'époque, ce sont des faux prophètes séducteurs. Et on peut comprendre que cela trouble l'Église. Rendez compte, vous avez quelqu'un qui était assis à côté de vous, qui apparemment pendant un certain temps a cru comme vous, et puis un jour, il s'en va. Et puis vous entendez qu'il répand toutes sortes de fausses doctrines, avec ceci de particulier, c'est qu'il utilise souvent le même langage que vous. Parce que c'est ça aussi un des grands problèmes qu'on voit d'ailleurs dans d'autres épîtres du Nouveau Testament, c'est que ces faux docteurs utilisaient le même type de langage que les vrais. Et je dirais que c'est là que nous ne devons pas être naïfs aujourd'hui. Nous l'avons lu dans Matthieu 7. Il ne suffit pas d'avoir un langage évangélique pour être un chrétien authentique. Parce que les mots peuvent être les mêmes, mais est-ce qu'ils ont la même signification ? Quand quelqu'un vient à ma rencontre et me dit « Moi, je crois comme toi en Jésus », est-ce que je vais lui dire immédiatement « Alors, tu es mon frère ?» Le mot « Jésus » n'a pas le même contenu pour lui et pour moi. Il m'est souvent arrivé d'entendre dire ceci au sujet des émissions religieuses télédiffusés ou radiodiffusés du dimanche matin, qu'il valait presque mieux écouter l'homélie du prêtre que le serment du pasteur, parce que le serment du pasteur vous faisait hérisser les cheveux sur la tête tellement il était bourré de problèmes et d'hérésies de tout genre, alors que souvent l'homélie du prêtre le dimanche matin pouvait être remarquable. Généralement, les personnes s'empressaient d'ajouter jusqu'à ce que, subitement, une fois qu'on était bien étonné, stupéfait, il y avait le mot sur la Vierge Marie qui venait tout détruire. Mais même s'il n'y avait pas le mot concernant Marie, intermédiaire obligatoire entre le Père et le Fils, même s'il n'y avait pas ce mot-là, est-ce qu'il fallait se réjouir de ce que l'homélie était évangélique? Ça ne me réjouit pas spécialement. Dans ce sens que les mots n'ont pas forcément la même signification sur les lèvres du prêtre, sur les lèvres de tel ou tel pasteur, de tel ou tel ecclésiastique, que ce qui est dit dans la Bible. En 1968, étant dans l'aumônerie militaire protestante en Allemagne, j'ai emmené un certain nombre de militaires jeunes convertis à Jésus-Christ à Berlin pour assister à une grande rencontre, à une inauguration de chapelle. Et nous avions une conférence par un théologien qui rentrait d'un de ces grands conciles œcuméniques, conseil œcuménique qui venait d'avoir lieu à Uppsala. Et le théologien a fait son grand discours, et les jeunes convertis à Christ qui étaient avec moi étaient très heureux. Et ils m'ont dit leur satisfaction d'avoir entendu un discours qu'ils considéraient comme évangélique. Et je leur ai dit, écoutez, détrompez-vous. Vous avez entendu un discours apparemment évangélique. Parce qu'il y avait effectivement dedans des mots que vous connaissez maintenant. Il y avait le mot foi, évangélisation, mission, salut et d'autres mots. Mais maintenant, je vais faire un petit exercice avec vous, et j'ai fait cet exercice avec eux. Je leur ai dit, écoutez, maintenant, je vais vous traduire ces mots dans leur langage à eux. Qu'est-ce que ces mots peuvent bien signifier sur leurs lèvres? Est-ce que les mots ont la même signification sur leurs lèvres et dans leur mentalité et dans les Écritures? Je dis, alors, comment est-ce qu'il voit la foi? Comment ce théologien voit-il la foi? Alors, j'aurais expliqué ce qu'était la foi dans la conception de ce théologien. Oh, il fallait voir un petit peu les yeux grands ouverts et les oreilles et la stupéfaction. Quand j'ai pris tout le vocabulaire de ce théologien pour leur dire que ces mots n'avaient pas du tout la même signification dans le discours du théologien et dans la parole de Dieu. Et c'est là que parfois le disciple de Christ peut être troublé et peut être trompé. Et il y avait dans l'église de Jésus-Christ de la fin du 1er siècle des gens qui étaient troublés, qui ne savaient plus très bien où était la vérité, comment distinguer la vérité de l'erreur. Et ils avaient à cause de cela perdu la joie du salut, et c'est pour cela d'ailleurs certainement que l'apôtre Jean commence sa lettre, notamment au verset 4, en disant « afin que notre joie soit parfaite ». D'ailleurs, vous lirez les premiers versets de la première épître de Jean à la lumière de ce que je vous ai expliqué. Cette insistance, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. C'est-à-dire la personne de Jésus-Christ, nous l'avons vu, entendu, touché. Jésus-Christ n'est pas simplement un pur esprit, nous avons vécu. Il était le dernier témoin en tant qu'apôtre. Il avait vécu aux côtés de Jésus-Christ.
n'est-ce pas? Et on comprend que Dieu, dans sa souveraineté, les gardait en vie. Il est devenu pratiquement centenaire pour pouvoir, de la part de Dieu, être ce témoin disant à ces gnostiques, à ce sérinthe, « Mais moi, je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai contemplé, je sais qu'il est le Fils de Dieu. » Et nous disons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alors, l'apôtre Jean va donc leur écrire pour leur donner des signes, des points de repère précis qui leur permettront de discerner la vérité et l'erreur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la première lettre de Jean est la carte d'identité d'une vie chrétienne authentique. Et l'apôtre Jean va insister énormément sur les différences entre le vrai chrétien et le faux chrétien, et sur la manière de les discerner. Dans une rencontre récemment de leaders évangéliques au plan national, l'un de ces leaders de dire à quelques-uns d'entre nous, la bouche en cœur, mais vous savez, pour distinguer qui est véritablement disciple de Jésus-Christ, on n'a pas énormément de points de repère dans les Écritures. Et j'ai dit, je vois un point de repère, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Et là, j'ai fait un bond. Et j'ai dit à cette personne, mais que faites-vous de la première épître de Jean, qui précisément a été écrite pour nous donner une carte d'identité particulièrement précise d'une vie chrétienne authentique. Vous savez, la première épître de Jean, je l'aime beaucoup parce que c'est l'épître des certitudes. Jean veut et Dieu veut avec lui que les croyants aient des certitudes, qu'ils connaissent, qu'ils vivent de certitudes. Et dans ma Bible, j'ai repassé du temps, comme je l'ai fait dans d'autres Bibles dans le passé, à souligner, à encadrer, à colorer toutes les présences de deux mots grecs traduits en français. Un premier mot qui revient 15 fois, nous savons, nous savons, nous savons, il faut savoir. Et c'est intéressant ce mot parce que c'est un mot, c'est un verbe qui vient d'un autre mot qui veut dire voir avec ses yeux. Voir avec ses yeux, voir de ses yeux, d'où être informé, d'où être instruit, savoir comme quelque chose qui saute aux yeux. Nous savons comme quelque chose qui saute aux yeux. C'est une évidence absolue. Cette expression revient donc 15 fois. Vous en avez une autre qui revient 25 fois, et c'est énorme, en quelques 5 chapitres, c'est le verbe connaître. Alors on comprend avec le problème du gnosticisme que nous ayons 25 fois dans cette lettre le verbe connaître qui a plusieurs sens ici. Nous nous apercevons ou nous nous apercevons ou nous expérimentons une relation personnelle intime. Nous reconnaissons un terme lui aussi extrêmement fort. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a des certitudes. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'incertitude règne en maîtresse. On ne sait plus, on n'a plus de point de repère, tout est devenu relatif. Nous avons des certitudes. Et l'apôtre Jean nous donne des certitudes pour que nous puissions notamment discerner qui est disciple de Jésus-Christ et qui ne l'est pas. Et quand on me dit que c'est être orgueilleux que de considérer qu'un tel est croyant et qu'un tel ne l'est pas, je dis, eh bien écoutez, c'est dommage, c'est dans les Écritures. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est sûr qu'en dernier ressort, Dieu seul sait l'absolue vérité à ce sujet. Et c'est vrai que dans certaines situations, nous devons être prudents. Mais nous avons quand même des points de repère extrêmement forts dans la parole de Dieu pour savoir qui est véritablement disciple de Christ et qui ne l'est pas. Et en quelque sorte, l'apôtre Jean va proposer des tests de connaissance de Dieu. Il dit en quelque sorte aux chrétiens d'Asie Mineure et à nous, voici les tests par lesquels nous pouvons nous assurer que nous connaissons bien Dieu, que nous connaissons bien Jésus-Christ, que nous sommes sauvés. Et il y a trois grands tests. Dans la première épître de Jean, trois tests cardinaux. Un test dans le domaine de la doctrine, un test dans le domaine de la morale et un test dans le domaine social. Alors, on ne va pas faire ça hein, demain parce que c'est trop énorme. On va prendre un tout petit bout, mais alors on va le creuser, ce bout-là, de manière très pratique. Ce soir, c'est un enseignement assez doctrinal parce qu'il faut que nous nous penchions aussi sur les questions de doctrine. Et sur la base de cette doctrine, demain, nous allons construire pour la vie pratique, avec énormément d'exemples pratiques, mais il est important que nous introduisions solidement notre sujet. Alors il y a, dans cette première lettre de Jean, une expression qui est un bon point de repère. C'est l'expression « né de Dieu ».« Né de Dieu » revient à 6 reprises. Dans cette lettre. 6 fois. Et c'est un des grands points de repère pour ces critères d'une vie chrétienne authentique. Par exemple, 1 Jean chapitre 3 verset 9, nous l'avons lu, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc, premier critère extrêmement important, c'est un test moral. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors ça, c'est ce qui va nous intéresser d'une manière toute particulière pendant les études de demain. Ce critère moral, qu'on peut traduire par l'expression « si vivre dans la lumière ». Ce critère est repris au chapitre 5, et au verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est intéressant qu'il y ait cette répétition du même critère moral, parce qu'il a beaucoup d'importance dans cet épître, surtout à cause de ces faux docteurs qui disaient qu'on peut être spirituel tout en vivant n'importe comment. Comme vous avez aussi aujourd'hui des gens, y compris dans les églises évangéliques, pardon de le dire, mais qui justifient leur adultère, et toutes sortes d'autres situations dramatiques, et qui prétendent pouvoir continuer à marcher avec Christ tout en vivant dans le péché. Et qui disent, mais il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas d'opposition entre les deux. On peut être spirituel et pourtant vivre n'importe comment. Ça, c'est parce que nous vivons dans un monde où tout est devenu très relatif, et où on cultive des concepts extrêmement dangereux. La vérité est juste, le contraire de la vérité est juste aussi. On en est là aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe dans les Écritures, et surtout dans la première épître de Jean, c'est que l'apôtre Jean dit de la part de Dieu, ben, il y a la lumière, il y a les ténèbres de l'autre côté. Et les ténèbres ne sont pas justes comme la lumière, ils sont faux. Alors qu'il y ait des domaines dans la vie où nous devions être prudents, il y a des domaines de tolérance. Vous savez qu'il y a des chapitres entiers sur ces questions de tolérance. Mais il y a des domaines absolument essentiels où nous n'avons pas le droit de lésiner et de dire il y a des nuances. Non, il y a la lumière, il y a les ténèbres. En ce qui concerne la question du péché, mais cela va nous intéresser. Regardez un deuxième point de repère, 1 Jean 3, verset 10. 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Quiconque ne pratique pas la justice, déjà au chapitre 2 et au verset 29, il est dit, si vous savez qu'il est juste, Jésus-Christ, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Ça, c'est encore un point de repère moral. Je ne pratique pas le péché, donc je pratique la justice. Je vis dans la ressemblance à Christ, dans son caractère et dans ses œuvres. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. 1 Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça, c'est encore un autre critère qu'on peut appeler un critère d'ordre social, d'ordre relationnel. Quiconque aime est né de Dieu. Pas n'importe comment. N'importe qui n'a pas le droit de dire, puisque j'aime, je suis né de Dieu. Parce qu'il y a, dans toute la première épître de Jean, un enseignement extrêmement précis sur l'amour. Et il est question de l'amour qui a été versé par Dieu lui-même dans le cœur de ceux qui sont nés de lui. Et puis dans la première épître de Jean, il est d'abord question de l'amour dans nos relations les uns avec les autres dans l'Église. Comme si Dieu voulait nous dire, mais comment est-ce que vous pouvez prétendre essayer d'aimer ceux qui ne sont pas en Christ si vous êtes incapable de vous aimer à l'intérieur de l'Église? Parce que ça devrait être quand même plus facile d'aimer son frère et sa sœur que d'aimer le voisin qui nous poursuit en procès devant la justice, et que sais-je encore, n'est-ce pas? Donc, c'est d'abord au niveau de l'Église que vous allez prouver que vous êtes né de Dieu par votre amour les uns pour les autres. Si vous êtes incapable de vous aimer dans l'Église, ne dites pas que vous êtes disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas vrai. Parce que quand on est né de Dieu, on aime ses frères. Ça, c'est le grand message. C'est encore un critère fort du christianisme authentique. 1 Jean chapitre 5 verset 1er. Voilà alors le grand critère théologique. Quiconque croit que Jésus est le Christ, qu'il n'y a pas Jésus d'un côté et Christ de l'autre. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Critère théologique, avoir une juste conception, une juste vision, une juste approche doctrinale de la personne de Jésus-Christ. Et puis enfin, dans 1 Jean 5, versets 4 et 5, c'est le cinquième élément. 1 Jean 5, versets 4 et 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est encore un critère d'ordre moral. Et le monde est défini dans la première épître de Jean. Dès le début de la première épître de Jean, au chapitre 2, versets 15 et suivants, vous avez une déclaration très précise au sujet du monde, ici conçu comme une mentalité, comme un système, une manière d'être, de penser, de réagir, qui est dominée par le prince de ce monde, par la puissance des ténèbres. Donc celui qui est né de Dieu triomphe de ce système de pensée, d'attitude, de relation, de conception, de philosophie, de conduite. Celui qui est né de Dieu triomphe de ce système. Il ne se laisse pas embobiner, ficeler, ensorceler, séduire par ce système à cause de sa foi, c'est-à-dire à cause de sa relation personnelle vivante avec Jésus-Christ, au contact continu de sa parole. Alors, et avant de terminer, je souligne encore que les thèmes que nous venons d'évoquer ici sont entremêlés dans la première épître de Jean. Ce n'est pas une épître qui est construite avec, premièrement, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Deuxièmement, celui qui est né de Dieu pratique la justice. Troisièmement, celui qui est né de Dieu aime. Quatrièmement, non. Il y a une espèce d'enchevêtrement. Tout cela est entrelacé. Tout cela fait bloc pour bien montrer en fait que tous ces éléments sont absolument indissociables l'un par rapport à l'autre. Il faut qu'ils soient en quelque sorte tous présents. On n'a pas le droit d'en isoler un par rapport à un autre. On n'a pas le droit de dire, dans la mesure où je crois que Jésus est bien le Fils de Dieu, dans la mesure où je crois que Jésus-Christ est bien Dieu, ça va, je peux me passer des autres. Non, tout cela est indissociable. Il n'y a pas de construction logique, mais un travail de tissage, les fils étant liés les uns aux autres pour former la tapisserie d'une vie chrétienne authentique. Alors j'aimerais terminer cette introduction essentielle pour ce que nous allons voir demain en soulignant donc qu'être né de Dieu, c'est la condition sine qua non d'une vie chrétienne authentique. C'est le fondement d'une vie chrétienne authentique. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans ce miracle extraordinaire. Ce miracle de Dieu lui-même, puisque Jean dira dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, dans les versets 12 et 13, Jean 1, 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu cette lumière du monde, qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans leur vie, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, en sa personne, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Être né de Dieu, miracle absolument extraordinaire, nous l'avons dit, de la main même de Dieu. Comment est-ce que ce miracle peut être tant soit peu expliqué? C'est un mystère. Mais on peut quand même comprendre certains aspects de ce mystère par le langage des Écritures. La Bible nous dit que Dieu dépose dans le cœur de l'homme une semence. Une semence d'en haut. Cette semence, c'est sa parole vivante, parce que la parole de Dieu est appelée semence. Dans 1 Pierre 1, 23, par exemple, vous avez été régénéré, vous êtes né de nouveau, non par une semence corruptible, périssable, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et vient l'exemple de la semence périssable au verset 24, puis de la semence éternelle, verset 25, la parole du Seigneur qui demeure éternellement. Et cette parole, qui est donc cette semence, est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et il est intéressant de voir que là, l'apôtre Pierre utilise le mot « spora », qu'on retrouve en français, le mot « spore », c'est-à-dire une semence dans le domaine végétal. L'image est ici végétale, vous verrez pourquoi je le souligne, mais c'est une semence divine, incorruptible, éternelle, vivante. Pensez à la parabole du semeur, qui entre tout à fait dans ce cadre. Dans Jacques 1, 18, il est dit qu'il nous a engendrés, donc il nous a fait naître de lui, selon sa volonté, par la parole de vérité. Alors ça, c'est l'acte de Dieu extraordinaire. Le Saint-Esprit, qui est toujours à l'œuvre, travaille ce terrain de notre cœur, il le laboure pour créer les dispositions favorables vis-à-vis de cette semence déposée. Le Saint-Esprit travaille pour que la semence trouve un terrain fertile, pour que le message soit reçu, qu'il soit cru. Et puis à un moment donné, se produit ce oui de la foi, de la confiance personnelle qui alors déclenche le grand miracle. Et on pourrait presque dire que le Saint-Esprit, en quelque sorte, féconde à ce moment-là cette parole vivante de Dieu. Et de cette fécondation jaillit le fruit éternel, la vie nouvelle, l'homme nouveau, la nouvelle création, le bébé en Christ. On pourrait dire que la nouvelle naissance est l'aboutissement d'un mariage en nous, entre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui la féconde. C'est une union entre une parole éternelle et un esprit éternel, et cette union apporte une vie éternelle. Et Dieu va contrôler de manière extraordinaire tout ce processus qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, par exemple dans Ézéchiel 36, au verset 25 à 27. Ézéchiel 36, 25 à 27, un des beaux passages d'Ézéchiel. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et puis dans 1 Jean 3, 9, je reviens au passage lu tout à l'heure, dans 1 Jean 3, 9, il est dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Vous voyez, vous avez la même pensée, hein ? La semence de Dieu demeure en lui. Mais là, curieusement, l'apôtre Jean n'utilise pas le terme « spora ». Il ne s'agit pas d'une semence végétale, mais l'apôtre Jean va utiliser le terme « sperma », c'est-à-dire la semence animale, et notamment la semence vivante de l'homme permettant la fécondation de l'ovule de la femme qui permet d'aboutir à une naissance. C'est toute la pédagogie de Dieu, n'est-ce pas, quand il veut parler de cette nouvelle naissance en utilisant notre langage, celui que nous connaissons, notamment dans le cadre du mariage et de la naissance d'un enfant. Cette vie nouvelle, éternelle, c'est donc la vie de Dieu lui-même en nous. Comme le disent les Écritures, nous devenons participants à la nature divine, nous ne devenons pas Dieu. Ça, cela fait partie de certains courants déviationnistes, de certaines sectes d'origine chrétienne. Nous devenons participants à la nature divine, Jean 14, 23 le dit d'une autre manière. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Ou encore Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et il y a dans les Écritures de nombreuses expressions pour exprimer cette merveilleuse et mystérieuse réalité. Certains textes disent « revêtir l'homme nouveau », d'autres disent « participer à la nature divine », d'autres encore « demeurer en Dieu », d'autres textes disent « l'avoir connu », d'autres disent « avoir la vie éternelle », ou encore d'autres « être enfant de Dieu », comme dans 1 Jean 3, 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté », etc., etc. Nous sommes enfants de Dieu. Être en Christ, tout ça, ce sont des expressions équivalentes à être né de Dieu. Et puis il y a, dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, un texte qui est très très précis et très riche aussi, qui a beaucoup de relief. 1 Corinthiens 6, 19, 20, ne savez-vous pas, voyez, toujours la question des certitudes, il y a des choses que nous devons savoir. Je dois savoir ce que je suis, je dois connaître mon identité. Trop de disciples de Jésus-Christ en cette fin du XXe siècle, parce qu'ils vivent dans les églises où on prône un flou monstrueux, vivent une crise d'identité, ils ne savent plus très bien où ils en sont. Sont-ils enfants de Dieu? Ne le sont-ils pas? Sont-ils nés de Dieu? Ne le sont-ils pas? Ils ne le savent pas très bien. Eh bien, ici, l'apôtre Paul dira, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, littéralement le sanctuaire du Saint-Esprit ? Le mot est très fort, il excluait en quelque sorte les parvis, il y avait le temple au sens très large avec les différents parvis, et puis il y avait la partie temple proprement dite avec le lieu saint, le lieu très saint. Et c'était un mot tout à fait spécial, et c'est ce mot qui est utilisé ici. Ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc à la nouvelle naissance, Dieu prend possession de mon être. Il en fait son sanctuaire. Je suis un pied-à-terre de Dieu dans un monde de ténèbres. Je suis une sorte d'enclave, de territoire divin en terre étrangère. Je suis une ambassade du royaume d'en haut en pays étranger. Je deviens une base stratégique, un tremplin, un relais de Dieu sur la terre. Dieu va travailler à partir de ce territoire sacré. L'homme né de Dieu ne peut plus vivre comme auparavant. Il porte dans un vase de terre un trésor incomparable, une puissance absolument extraordinaire, et j'aime utiliser, bien sûr, et c'est là une pâle image, l'exemple de la maman qui porte un enfant. Et à partir du moment où la maman sait qu'elle porte en son sein un enfant qui va naître dans quelques mois, c'est une révolution dans sa vie. Tout change. Ses relations vont changer. Ses rapports à la vie vont changer. Ses rapports avec la maladie, avec les médicaments, avec le travail, avec la nourriture. Il va se produire un bouleversement dans sa vie qui va aller très loin parce qu'elle porte en elle une vie nouvelle qu'elle protège afin que le moment venu, cette vie puisse être présentée au monde dans la personne d'un magnifique bébé. Et je pense à Jésus, le Fils de Dieu, conçu du Saint-Esprit, né dans le sein de la Vierge Marie, et à ce que cela devait représenter pour elle. De savoir qu'elle portait en son sein, miraculeusement, le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, celui qui bientôt allait être manifesté aux hommes. Quel bouleversement dans son existence ! Eh bien, ce sont là des reflets, en quelque sorte, de ce que doit être dans nos vies le résultat de cette nouvelle naissance, ce fait d'être né de Dieu, d'être rendu participant à la nature divine, d'être habité de manière permanente par le Saint-Esprit. Être né de Dieu, c'est donc avoir une attitude nouvelle, des réactions nouvelles, une mentalité nouvelle, c'est faire des œuvres nouvelles, parce que Christ vit et se développe en moi. C'est Paul qui parlera de ses souffrances pour les croyants de l'église, des églises de Galatie, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Dans Galates 4, 19. Si je suis né de Dieu, il doit y avoir un air de famille avec Dieu. Il doit y avoir à quelque part une ressemblance. Je suis de sa famille. Est-ce que cela est visible ? Est-ce que cela véritablement est visible ? Une personne qui prétend être née de Dieu et dont la vie n'est pas marquée de changement profond qui se conduit comme auparavant n'est pas née de Dieu, n'est pas chrétienne authentique, même si elle fréquente une église évangélique depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, même avec le langage le plus évangélique qui soit. Ce n'est pas le fait de vivre dans une écurie qui va faire de vous un cheval. Et ce n'est pas notre présence dans un local évangélique qui fait de nous un chrétien authentique. Loin de là. Je vous cite ces paroles du prince des prédicateurs Charles Spurgeon. Le fruit du juste, c'est-à-dire sa vie, n'est pas un vêtement qu'il met et ôte à volonté. Mais elle sort de son être. C'est une partie inséparable de lui. La religion sincère d'un homme est l'homme lui-même, et non pas un déguisement. Une authentique piété consiste en la croissance naturelle d'une nature renouvelée, et non en un développement forcé par l'atmosphère d'une pieuse serre. La vigne donne naturellement des grappes. Lorsque Dieu donne une nouvelle nature à son peuple, la vie qui en provient jaillit spontanément. L'homme dont la religion ne fait pas partie intégrante de lui-même s'aperçoit bien vite qu'elle ne lui apporte rien. Il porte sa piété comme un masque, et le saint devient sauvage une fois chez lui. Cet homme sait très bien quel avantage le formalisme et l'hypocrisie lui apportent, mais aucune trace de vraie foi ne l'habite. Le figuier ne porte pas des figues certains jours et des ronces le reste du temps. Non, le fruit s'accorde toujours avec sa nature. Et dans un autre texte adressé à des serviteurs de Dieu, il écrit ceci: « Certains pasteurs sont des anges à moitié. Et pour le reste, il s'agit, eh bien, disons, d'asticots. Tel homme proclame bien l'évangile, et vous vous dites, voilà un homme de Dieu. Vous l'invitez à manger afin de goûter des paroles de la grâce qui couleront de ses lèvres, mais voilà que des asticots en sortent. Un ange dans sa proclamation est maintenant un antre grouillant. Ce contraste horrible a pourtant de nombreux exemples. Serait-ce votre cas ? Et enfin, une dernière citation, toujours du même auteur. Il existe des chrétiens en ce monde qu'il est une grande richesse de connaître. Ce sont des bibliothèques de vérité évangélique, bien mieux que des livres, car la vérité y est inscrite sur des pages vivantes. Leur caractère est un arbre vrai, plein d'une vie fertile, issu de la main même du Seigneur, et non pas un poteau indicateur fait de bois mort. Ils ne se contentent pas de consoler les autres, mais ils leur communiquent aussi de la nourriture spirituelle. Ces chrétiens deviennent des pères et des mères spirituelles, fortifiant les faibles, pansant les blessures des cœurs brisés. Êtes-vous né de Dieu? Jésus l'a dit à Nicodème, dans Jean 3, n'est-ce pas? Il faut que tu naisses de nouveau, ou que tu naisses d'en haut, parce qu'on peut traduire des deux manières. Sous-entendu, il faut que tu naisses de Dieu. Il faut. C'est une nécessité. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans que je sois né de Dieu. Et cela, je dois en avoir la certitude. Ce n'est pas de l'audace, ce n'est pas de la présomption orgueilleuse, c'est simplement l'humble confiance dans les déclarations fermes, justes, fidèles d'un Dieu qui ne ment pas. Alors si je fais confiance à la parole de Dieu, je viens à Dieu et je le lui dis aussi. J'ai besoin dans ma vie de cette nouvelle naissance. J'ai besoin de naître d'en haut, de naître de toi. J'ai besoin de cette vie nouvelle. Je ne peux pas simplement... Dieu lui-même, venu parmi les hommes, en chair, dans un corps, semblable à l'homme, en toute chose, hormis le péché, véritablement Dieu et parfaitement homme, il est venu mourir sur la croix, prendre sur lui mon péché dont nous allons parler demain, pour que la semence de Dieu, le sperme de Dieu en quelque sorte, cette semence de vie d'en haut, pénètre ma vie et que se développe en moi miraculeusement la vie de Dieu lui-même. Christ en vous, nous l'avons dit tout à l'heure, l'espérance de la gloire. Alors êtes-vous né de Dieu? Et si vous l'êtes, quel Christ présentez-vous au monde par votre vie? Est-ce bien celui des Écritures? Ou serait-ce sa caricature? Christ grandit-il véritablement dans notre vie? Alors demain, nous considérerons pour les deux études ce premier critère d'authenticité que l'apôtre Jean développe longuement dans sa première épître. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et nous le ferons aussi de la manière la plus pratique qui soit, avec un petit socle doctrinal demain matin au départ, pour bien poser notre enseignement, et ensuite nous verrons toutes sortes d'aspects pratiques pour bien comprendre ce que signifie ne pas pratiquer le péché pour prouver que nous sommes véritablement nés de Dieu. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons ce soir te remercier parce que le christianisme authentique est fait de certitude. Merci parce que je sais. Job pouvait déjà dire, peut-être quelques 2000 ans, avant la venue de ton Fils parmi les hommes, je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous avons, nous, quantité de certitudes que Job n'avait pas encore, qu'il ne pouvait pas avoir. Et nous te bénissons pour ces certitudes que nous avons évoquées ce soir. Merci pour cette carte d'identité d'un christianisme authentique. Merci de ce que tu nous donnes à la fois la possibilité de savoir si nous sommes nés de toi et aussi lorsque nous sommes nés de toi, de discerner ceux qui autour de nous sont nés de toi par rapport à ceux qui ne le sont pas. Merci Seigneur pour ces certitudes qui nous évite de vivre ces crises d'identité si pénibles dans ce monde si flou, si brumeux. Merci pour ta lumière. Merci pour ton amour. Merci pour le miracle de la nouvelle naissance. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui éclaire ta parole, qui illumine notre intelligence et qui féconde en quelque sorte ta parole pour que cette vie jaillisse à un moment donné dans notre existence. Merci de bien vouloir, ô Dieu de gloire, faire de notre personne, de notre corps, ton sanctuaire, le temple du Saint-Esprit. Seigneur, quand nous pesons ces choses devant toi, nous sommes poussés à l'adoration, à une immense reconnaissance, et nous nous sentons terriblement humiliés à cause de nos folies, de notre péché, de nos égarements faciles, de nos infidélités.